Vous écoutez
RMC.
Il est 7h42 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. 1300 établissements, plus d'un million d'employés, 100 milliards d'euros de budget. Voilà ce que constitue l'hôpital public aujourd'hui. Et pourtant, il est en crise. C'est ce qui ressort de votre enquête, votre livre enquête publié aujourd'hui. Bonjour Nicolas Béraud.
Bonjour.
Vous êtes chef du service adjoint pour le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Vous êtes spécialiste des questions de santé et vous publiez Urgence vitale, pourquoi l'hôpital public craque. C'est aux éditions Flammarion. 2 ans d'enquête, des centaines de personnes rencontrées, des dizaines d'hôpitaux visités. Comment on en est arrivé là, à des situations où, vous le racontez, c'est le bricolage permanent, un épuisement des soignants, tout un système qui est à bout, des infirmières qui achètent leurs gants en latex elles-mêmes, des médecins qui parfois doivent gérer 10 patients à la fois, des injonctions contradictoires auxquelles ils n'arrivent plus à faire face. Qu'est-ce que vous avez rencontré au long de vos 2 ans d'enquête ?
Déjà, je me suis lancé dans cette enquête parce que la crise de l'hôpital, en tant que journaliste santé, j'en entends tout le temps parler et j'écris des articles dessus, mais j'avais un petit peu du mal à comprendre véritablement ce que c'était, quelles en étaient les causes, les conséquences, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps d'enquêter, de rencontrer un maximum de gens, que ce soit des soignants, des médecins, des patients, mais aussi des directions, des responsables administratifs. Il y a plusieurs scènes, sans toutes les citer, mais qui m'ont particulièrement marqué. Il y a celles qui sont très connues, des patients qui restent sur des brancards pendant des heures, voire des jours entiers aux urgences. Je me rappelle notamment, ça m'avait frappé, une femme qui occupait un lit dans un service d'urgence à Paris, qui avait une démence en soi, qui n'avait rien à faire dans un monde idéal, dans un service d'urgence. C'était une, comme on dit, une belle bloqueur. Elle bloquait un lit aux urgences parce que le système dysfonctionne bien au-delà de l'hôpital. Il y a ces bâtiments décrépits. Alors d'ailleurs, c'est un paradoxe incroyable. L'hôpital public, on y réalise des choses quand même extraordinaire, des opérations totalement dingues, des prouesses médicales avec des médecins de pointe, parce qu'ils sont pas du tout tous partis dans le privé, mais dans les mêmes hôpitaux ou parfois même dans les mêmes unités, vous avez aussi des bâtiments décrépits avec parfois des fils qui pendent du plafond, etc. Donc ça montre qu'il y a un vrai différentiel entre ce qu'on peut faire d'un côté et puis la réalité du quotidien. Donc voilà, c'est une crise qui est complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte, mais les conséquences, elles sont bien visibles pour les soignants et pour les patients, évidemment, en bout de chaîne.
Les médecins, ils sont découragés, mais vous le dites, ils tiennent bon.
Les médecins et les soignants, de façon générale, je pense qu'il faut quand même saluer tout le personnel qui fait vivre tant bien que mal l'hôpital public aujourd'hui, les soignants, les médecins, mais aussi le personnel administratif, les directions, etc. Il tient bon, mais j'ai envie de dire jusqu'à quand ? Il y a plusieurs médecins, plusieurs soignants qui m'ont dit c'est de plus en plus compliqué, on rogne de plus en plus, on est parfois moins un, moins deux au personnel, on ferme un lit, deux lits, cinq lits, 10 lits, ça tient encore, on est résilient, mais on peut pas forcément garantir qu'on le restera.
Quand est-ce qu'on a basculé là-dedans ? C'est-à-dire quand est-ce qu'on a basculé ? J'ai l'impression que quand on était enfant, nous, on nous disait que la France, c'était un Eldorado, qu'on était tous extrêmement fiers des infrastructures de soins. Quand est-ce que ça a basculé ? Quand est-ce qu'on est passé du soin comme moteur à une question désormais qui a l'air d'être plutôt des choix faits à cause du coût plutôt qu'à cause de l'efficacité du soin ?
C'est vrai, cette question du financement, elle est prégnante dans la crise que rencontre l'hôpital public aujourd'hui, qui ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Hein. Ça fait des années, voire des décennies qu'on en parle. Il y a plusieurs, moments marquants dans l'histoire. Il y a l'instauration du numerus clausus, notamment donc cette limitation du nombre de médecins formés chaque année, notamment à l'époque au XXe siècle pour des raisons économiques, parce que les médecins considéraient qu'en étant moins nombreux, ils pourraient avoir une patientèle plus importante et donc les médecins libéraux gagnaient plus d'argent. On s'est rendu compte qu'on avait trop réduit le nombre de médecins formés, donc on a totalement inversé la donne à la fin du XXe siècle, mais quelque part, une grande partie du mal était fait. Il y a eu le changement du mode de financement des hôpitaux. À une époque, il y avait une dotation globale, donc chaque année, on donnait une somme à chaque hôpital, quelle que soit l'activité qu'ils faisaient. Donc il y avait un peu, c'était pas forcément bien, parce que les hôpitaux qui voulaient faire beaucoup n'étaient pas forcément avantagés. Ça a été remplacé par cette fameuse tarification à l'activité que maintenant l'hôpital public, en tout cas certains services, sont principalement financés par ce système, à savoir que l'hôpital est rémunéré en fonction des patients qu'il reçoit. Donc ça peut inciter des dérives de faire sortir vite les patients pour en accueillir d'autres.
Ceux qui rapportent moins et garder ceux qui rapportent plus, en quelque sorte.
Ça a été documenté au point que Emmanuel Macron a annoncé qu'il y aurait un changement du mode de financement pour passer à une partie TESA et une partie autre chose.
Est-ce qu'on soigne encore bien en France ? On a l'impression que ça tient à un fil. Je voudrais qu'on puisse donner la parole à Jean-Yves qui nous a appelé au 3216. Bonjour Jean-Yves.
Oui, bonjour.
Vous habitez dans le Jura, je crois que vous êtes chargé d'affaires et votre femme a été hospitalisée. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ?
Oui, donc tout à fait. Ma femme a fait un malaise à la maison il y a de ça un peu plus d'un mois. et elle a été prise en charge par les pompiers sans problème. Elle a été amenée aux urgences. Aux urgences, le premier médecin qu'on a vu nous a parlé d'examens complémentaires qu'elle a été mise en place. Également une radio de la clavicule parce qu'elle était a priori cassée. Et il y a eu un changement de médecin pendant notre temps d'attente. Mmh. Et le nouveau médecin qui est arrivé, du diagnostic en disant, bon, on va regarder, on va aller faire des examens complémentaires, c'est passé à, votre femme a fait une crise d'épilepsie.
Ah d'accord, donc on est passé de clavicule cassée à crise d'épilepsie.
Voilà, et également, donc, une radio sur la clavicule. La clavicule, on nous a dit, c'est pas, a priori, c'est pas déplacé, vous pouvez rentrer chez vous. Donc, on est ressorti au bout de quelques heures. On est ressorti avec un traitement anti-épileptique lourd et également une radio, donc un contrôle de la clavicule à faire d'ici 10 jours. Et on n'a pas voulu rester comme ça. Le lendemain, la clavicule avait l'air d'être plutôt déplacée qu'autre chose. On est retourné voir notre médecin traitant. Et là, notre médecin traitant a pris peur. On a pu récupérer les radios qui avaient été faites. On est reparti des urgences sans les radios. On les a récupérées. Et il s'est avéré que, pour un défaut d'une clavicule peut-être déplacée, il y avait un déplacement de 2,5 cm de la clavicule.
Ah oui.
Oui.
Et l'épilepsie, c'était confirmé?
Et l'épilepsie n'a jamais été confirmée. Et elle a refait. Le traitement a été relativement lourd.
Est-ce que vous estimez, Jean-Yves, que c'est dû au débordement? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu face à vous des médecins qui étaient tellement débordés?
Alors, je ne pense pas forcément au débordement, mais je pencherai plutôt pour la prise en charge, le défaut de prise en charge. À l'hôpital, aux urgences, ils ont traité, a priori, une certaine urgence. Mais un diagnostic a été posé trop rapidement, sans prendre le temps. Et la vraie, enfin pour nous, la vision qui aurait dû être faite, c'était d'une hospitalisation. Voir pourquoi aujourd'hui, ça fait un mois et demi qu'elle a eu son malaise, aujourd'hui on n'a toujours pas de diagnostic de posé. La crise d'épilepsie, elle a arrêté son traitement parce que ça la minait. Et aujourd'hui,
il n'y a toujours pas de diagnostic. C'est exactement une des questions justement qui se pose, Jean-Yves. Au fond, l'exemple de ce qu'a vécu Jean-Yves, Nicolas Béraud, c'est la question aussi de l'hospitalisation et du nombre de lits. C'est-à-dire que quand on a si on a des lits derrière, on se dit j'ai un doute sur ce diagnostic, je vais peut-être garder le patient une journée, deux journées pour pouvoir prendre le temps de poser un diagnostic. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que ce défaut de lit peut entraîner aussi des erreurs, une rapidité, des mauvais diagnostics posés.
Oui, parce qu'on parle beaucoup des urgences débordées. C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'elles débordent? Il y a deux facteurs. Il y a le fait qu'il y a de plus en plus d'entrants aux urgences, notamment parce que la crise de l'hôpital, ce n'est qu'une partie de celle du système de santé, avec moins de médecins libéraux, notamment dans les campagnes. Donc il y a des gens qui vont directement à l'hôpital alors qu'ils auraient pu être pris en charge ailleurs. Et puis, de l'autre côté de la chaîne, si je puis dire, comme il y a eu beaucoup de fermetures de lits depuis le Covid, même si dans certains hôpitaux la tendance s'inverse, il y a moins de places pour accueillir des patients des urgences. Donc, des patients qui sont toujours aux urgences alors qu'ils pourraient être pris en charge
on
dans un lit classique.
On fait comment? C'est-à-dire que vous y croyez malgré tout, et c'est aussi vraiment tout à votre honneur, c'est que non seulement vous voyez effectivement cet hôpital qui craque et dans lequel on bricole, mais vous estimez qu'on peut réussir à sauver l'hôpital?
Bien sûr, alors il y a plusieurs solutions. La crise est compliquée, il n'y a pas un facteur d'explication unique, de même qu'il n'y a pas une solution miracle, sinon ça se saurait. Mais il y a plusieurs pistes. Déjà, la priorité, je pense, ou l'une des priorités, c'est de redonner envie aux soignants, aux médecins, de rester bosser à l'hôpital public. Donc ça passe peut-être par de nouvelles revalorisations salariales, mais aussi par des choses, par exemple, aménager les temps de travail. On sait que les nouvelles générations de médecins, de soignants aujourd'hui n'ont plus forcément les mêmes attentes de ce point de vue-là que celles d'il y a 30-40 ans. Donc ça peut être des semaines avec moins de jours travaillés, mais des journées plus longues. Ça peut être d'améliorer la qualité de vie au travail en mettant fin à certaines pratiques qu'on constate toujours avec des chefs de service qui peuvent se comporter mal. En tout cas, c'est vécu comme tel par les jeunes médecins, les soignants. Donc ça, il y a aussi le côté à améliorer l'accès aux soins en dehors de l'hôpital, parce que comme je l'ai dit juste avant, la crise de l'hôpital, ce n'est qu'une partie de celle du système de santé. Donc il faut mettre le paquet, si je peux dire, sur l'accès aux soins dans des maisons de santé, dans des cabinets de ville, etc. Et puis la prévention, parce que la meilleure façon de ne pas avoir besoin d'aller à l'hôpital, c'est évidemment de ne pas tomber malade. Et la France, que ce soit sur la vaccination, sur le sport, sur l'alimentation, sur beaucoup, beaucoup de choses, elle pourrait mieux faire aussi de ce point de vue-là. Donc oui, il y a des raisons de croire qu'on peut sauver l'hôpital public, mais il faut agir et ne plus attendre.
Et il faut lire votre livre. C'est une véritable plongée aussi dans la réalité de cet hôpital public. Merci d'être venu nous délier votre enquête, Nicolas Béraud, chef du service adjoint au journal Le Parisien aujourd'hui en France. Et votre livre, ça s'appelle Urgence Vitale. C'est aux éditions Flammarion.